Sud Radio Saint-Roule, midi 30, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et ravi de continuer d'être avec vous en cette fin de matinée sur Sud Radio Saint-Roule. Alors attention, car ça va être un Saint-Roule un peu particulier. Il va y avoir le départ du Tour de France, là, qui se joue en ce moment du côté de Brest. On va faire un petit détour avec le bus. Sur la route, la vue, c'est la vie qui va accompagner ce Tour de France. J'aurai également des super places pour vivre le grand championnat de camions de Nogaro à vous offrir pour le week-end prochain. On continue avec Sud Radio, on vous gâte. Et puis évidemment, mon Pierre, il y a le sujet qui nous intéresse aussi aujourd'hui avec la fin des moteurs thermiques en 2035 annoncée alors qu'on nous avait annoncé en 2040. Bonjour Pierre.
Salut Malolo, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, notamment avec ma grande passion, le Tour de France. On va en parler avec Chris, qui est partenaire officiel du Tour de France et qui sera avec nous, et qui propose une super animation autour de la vue. Pourquoi je suis ravi, Laurence ? Parce que la vue, c'est sans doute le point essentiel de sécurité routière sur lequel tout le monde se rassemble. On verra qu'il y a des innovations.
Exactement. Et puis, ben, vous êtes attendu, bien sûr, vous aussi, au 0826 300 300 sur ce sujet que l'on vous propose avec notre invité Fabrice Godefroy. La Commission européenne devrait faire la proposition le 14 juillet prochain, la fin des moteurs thermiques en 2035, alors que normalement, la France était fixée la date de 2040. Alors, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous prévu à lâcher tout de suite votre moteur thermique ? Quelles conséquences également pour l'emploi dans notre pays ? Enfin, ça remet tellement de choses en cause. Et ne pensez pas que 5 ans de moins, c'est rien. Au contraire, est-ce qu'on est prêt ou pas ? On vous attend, 0826 300 300. Vous nous rejoignez dès maintenant. Je vous attends.
Sud Radio, ça roule.
Et tout de suite, eh bien, Pierre, on va accueillir Marie-Noëlle Vinet du groupe Chris avec ce fameux bus « La vue, c'est la vie » sur la route. Parce que ils accompagnent, Pierre, le Tour de France qui débarque maintenant.
Alors, c'est moi qui l'ai appelé comme ça, Marie-Noëlle, votre bus. Oui. Parce qu'évidemment, je reprends ce slogan que l'on connaît tous. Vous êtes partenaire officiel du Tour de France, vous allez être sur la route et vous allez proposer une animation que j'aime particulièrement à tous les usagers de la route qui vont se présenter devant vous. En quoi consiste cette animation de Chris sur le Tour de France ?
Oui, oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Bah, pour la cinquième année maintenant, en fait, nous mettons en place un bus de la vue et de l'audition d'ailleurs, et qui est placé sous l'égide de notre fondation Chris Group. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on est présent justement chaque année pendant plusieurs journées sur les étapes du Tour. Donc cette année, on est présent pendant 12 journées et donc à chaque fois et à cette occasion, on propose donc à toutes les personnes qui sont présentes sur le parcours donc ce jour-là, notamment bah, les familles, alors aussi bien les enfants que les adultes, les parents, les grands-parents, de venir nous rencontrer. Et puis, à cette occasion, ils peuvent faire tester leur vue et leur audition.
Alors, ce que j'aime particulièrement sur cette opération, c'est que vous savez, au volant, je pense que je fais souvent cet amalgame, je dis, je préfère rouler de quelqu'un qui est à 82 km/h au lieu des 80, que rouler derrière quelqu'un qui est complètement miro comme une taupe. Et je trouve qu'on n'en fait pas assez en termes de sécurité routière autour de la vue. D'ailleurs, on a cette proposition sur laquelle on était tombé d'accord, on a beaucoup parlé dans Sa Roule avec Laurence, c'était de dire, proposons un contrôle de la vue chez nos opticiens de manière à faire contrôler tous les 5 ans, tous les 10 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose d'intelligent parce que le rendez-vous chez l'ophtalmo, c'est la croix et la bannière quand on n'habite pas dans les grandes villes, et même parfois dans les grandes villes, Marie-Noëlle. Est-ce que les opticiens font ce rôle ? Est-ce que si je vais chez Chris aussi, je peux faire tester ma vue gratuitement ?
Alors oui, alors justement, donc ce que je voulais rappeler justement, c'est que dans le bus, on a tout le matériel nécessaire. Et justement, dans le bus aussi, on a une équipe de professionnels de santé avec justement des ophtalmologistes, on a des orthoptistes, on a des opticiens et on a des audioprothésistes. Donc vous voyez, on a vraiment tous les professionnels qui sont concernés par la vue, qui peuvent justement ce jour-là accueillir toutes les personnes qui viennent et faire bien des tests de vue à ces personnes-là et donc bien vérifier qu'ils ont une vue qui est tout à fait conforme.
Voilà, et c'est important, oui. Mon Pierre, effectivement, pour la sécurité routière de tous et pas simplement du conducteur, ça paraît évident. Moi, je trouve que c'est une très très belle initiative. Vous êtes opticien officiel du Tour de France pour la sixième année consécutive. Vous avez ce bus qui permet à chaque étape de tester et sa vue et son audition. On aura l'occasion d'en parler régulièrement tout au long de ce Tour de France. Parce que l'audition, c'est aussi important quand on prend la route. Si on n'entend rien, il peut y avoir aussi des conséquences. Merci beaucoup.
Justement, je voulais vous engager aussi à aller tester votre vue pour les villes où on ne passe pas chez tous les opticiens, parce qu'au quotidien, on peut effectivement tester sa vue.
Tout sans à fait, Marie-Noël.
On entend ce qui se passe dans le bus.
Voilà, exactement. Marie-Noël Vinet qui était avec nous. Donc, si vous faites une des étapes du Tour de France, eh bien, vous pourrez retrouver ce bus incroyable des opticiens Chris qui vous permet de tester gratuitement votre vue et votre audition.
Sud Radio, ça roule.
Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est un sujet qui va risquer de nous faire perdre nos voitures beaucoup plus tôt que prévu, en tout cas les voitures thermiques que nous avons, Pierre, avec cette Commission européenne qui fait normalement cette proposition le 14 juillet prochain. Nous, en France, on s'était fixé la date de 2040. Eh bien, ce serait pour 2035 la fin des moteurs thermiques. Et Pierre, c'est pas qu'une histoire non plus de pollution ou d'écologie. Il y a derrière un énorme enjeu de l'emploi partout en France et pas que. Et c'est pour ça qu'on a eu envie d'en parler, Pierre.
Oui, et ce qui me fait peur, Laurence, au-delà de ça, c'est qu'on voit les annonces qui se multiplient, notamment une du groupe Volkswagen, Audi, qui a annoncé mettre fin aux moteurs thermiques dans quelques années. Moi, ça me fait peur parce que j'ai l'impression que ceux qui font ces annonces, eh bien, on va être très clair, c'est ceux qui ne seront plus aux manettes, aux fonctions politiques dans une dizaine d'années. Donc, ils prennent aucun risque. Ils peuvent annoncer toutes les bêtises du monde qu'ils veulent pour soi-disant envoyer des signaux politiques. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt. Il n'y a pas de borne de recharge. Les voitures électriques n'ont pas l'autonomie nécessaire, à moins de rouler en Tesla avec une autonomie merveilleuse et des superchargeurs. Sinon, on n'y est pas. Mais la conséquence, Laurence, c'est l'emploi. Et là,
exactement,
ça va être la catastrophe. Je rappelle que la voiture en France, c'est 10% de l'emploi.
Alors, pour ce faire, et tu as raison, Pierre, nous, on a un invité qui connaît bien le sujet et qui se bat aussi pour cette histoire d'emploi. C'est Fabrice Godefroy, qui est expert mobilité et environnement chez 40 millions d'automobilistes. Bonjour, Fabrice.
Bonjour.
Ce que vient de dire Pierre, c'est important. On a mis le doigt là-dessus. L'emploi. Quid ? Alors que toutes les usines sont déjà en train de fermer en France.
Le problème, c'est qu'on est pris effectivement en entonnoir vers cette fin du moteur thermique. Alors, à deux niveaux. Pour le parc roulant, ce sont les zones de faible émission. Et là, quand on parle de la Commission européenne, ce sont les ventes de véhicules en Europe. Alors effectivement, il faut revenir un petit peu en arrière. La France avait acté, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était le 13 mai 2019, par un amendement, la fin du moteur thermique en 2040, qui paraissait extrêmement ambitieux, parce qu'en plus, quand on regarde dans le détail de ce chapitre, on s'aperçoit que les diesels, les essences,
les
gaz, mais aussi l'hybride et l'hybride rechargeable étaient concernés. Donc c'est extrêmement ambitieux. Et apparemment, ce n'est pas suffisamment ambitieux pour l'Europe, parce que l'Europe souhaite, au niveau européen, de supprimer et d'avancer cette date-là à 2035, dans 13 ans. Donc c'est vrai que ça paraît énorme.
Mais ça veut dire que personne n'est prêt. Alors est-ce qu'il va falloir se préparer très vite ? Je parle au niveau des emplois, hein, parce qu'après il y aura les conséquences sur les consommateurs et propriétaires de voitures que nous sommes. Mais...
Alors déjà, Pierre l'a dit, les constructeurs l'annoncent au fur et à mesure, mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont obligés de le faire. De toute façon, ils n'auront pas le choix. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète plus, c'est que les constructeurs ont la pression pour le faire. D'ailleurs, Klaus Tavares l'avait très bien dit. Maintenant, c'est la Commission européenne qui, effectivement, fixe les objectifs stratégiques des entreprises. Donc on le voit très bien. Alors après, effectivement, au niveau des emplois, au niveau de l'industrie en France, effectivement, ça va être très important parce que l'Observatoire de la métallurgie a évalué à plus de 100 000 emplois qui pourraient disparaître avec la fin du moteur thermique. Alors évidemment, il y a tous les constructeurs, il y a les équipementiers, mais il y a aussi tous les sous-traitants. Donc c'est extrêmement important, effectivement.
Alors moi, Fabrice, j'ai juste un problème. Tu sais, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je regarde autour de moi, on a tous des voitures thermiques, le marché de l'électrique, c'est peanuts, c'est rien du tout. C'est 2-3 cacahuètes au milieu du flot automobile. Comment on va faire ? Parce que il faut des stations-service, il faut des bornes de recharge aussi. On nous explique donc que le moteur thermique, c'est fini. Donc, la station-service avec. Comment ça va s'organiser ? Et puis, qu'est-ce qu'on achète maintenant ? Celui qui nous écoute, il achète quoi comme voiture ?
C'est une révolution parce qu'aujourd'hui, alors on sait très bien qu'on veut pousser le véhicule électrique depuis maintenant quelques années, on a des subventions qui sont assez fortes et d'ailleurs qui baissent à partir du mois prochain de 1 000 euros. Hein. Donc on est plutôt en train de freiner au niveau des subventions, au niveau du 100% électrique.
Subvention, c'est l'impôt. Hein.
Voilà. Et donc 6,5% des ventes en 100% électrique l'année dernière et on est à 7% cette année. Donc c'est sûr que ça serait une révolution. Alors après, ce que tu dis, Pierre, c'est très intéressant parce que les répercussions financières pour pour la France de passer du moteur thermique vers le véhicule 100% électrique ont été chiffrés. Ils ont été chiffrés par le rapport de l'Office parlementaire sur l'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et ils l'ont évalué à 500 milliards d'euros. C'est-à-dire que ça va coûter 500 milliards d'euros à la France de passer du thermique au 100% électrique. Alors pourquoi ? Parce que évidemment, tu l'as dit, il y a toutes les infrastructures qu'il va falloir mettre en place, et pour l'instant, on peine à les mettre en place, on a 30 000 bornes publiques. Il y a effectivement aussi toutes les subventions qu'on donne actuellement pour passer au 100% électrique, mais il y a quelque chose qui, toi, va te plaire, c'est qu'aussi, on tient compte des taxes sur les carburants, hein, plus de 60% entre la TICPE et la TVA, et je crois, et ça tu vas me le confirmer, je crois que c'est 40 milliards d'euros par an de taxes sur les carburants, c'est ça, entre l'essence et le diesel.
Pour être très honnête, les taxes sur les carburants, c'est 42 milliards par an pour l'État. Ça représente, Laurence, la moitié, quasiment, un peu plus de la moitié de ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Les taxes sur le carburant, c'est la moitié de l'impôt sur le revenu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Donc l'État va devoir se passer de ça. Franchement, Fabrice, on va se prendre une taxe sur nos compteurs Linky quand on va brancher nos électriques.
Alors, déjà annoncé. Mais si vous voulez bien, messieurs, on en parlera après, parce que là, vous êtes partis. On a du monde qui attend au standard aussi pour réagir. Et puis, on a la possibilité de continuer d'en parler dans quelques instants. Excusez-moi de jouer un petit peu les mères fouettards du côté du timing. Mais nous avons aussi des jeux et un super gagnant à découvrir dans quelques instants avec la question que je vous pose maintenant pour gagner des places pour le circuit de Nogaro. Avec la question que je vous pose, c'est en quelle année que le Grand Prix Camion a été créé au Grand Prix sur le circuit Paul Armagnac ? En quelle année le Grand Prix Camion a été créé sur le circuit Paul Armagnac ? Est-ce 1, 1964, 2, 1994 ? Max, il aime bien cette année, 1994. Est-ce que c'est 1964 ou 1994 que le Grand Prix Camion a été créé sur le circuit Nogaro ? 0826 300 300.
Sud Radio, ça roule, midi 30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et on continue de parler de ce qui va se passer en 2035, puisque la Commission européenne devrait faire cette proposition. Ça va nous arriver sur le coin du nez, normalement mi-juillet, que la fin du moteur thermique sera pour 2035 et non pas 2040. Alors avec Pierre et Fabrice Godefroy, notre invité expert mobilité environnement chez 40 millions d'automobilistes, en train de découvrir les conséquences que ça va avoir, et pas simplement pour nous automobilistes, on n'aura plus nos voitures thermiques, mais pour l'emploi en France, en Europe et partout ailleurs. Et surtout, eh bien, on a vous aussi qui avez envie de réagir. C'est Denis qui nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Denis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Voilà, donc j'ai une C5 à 11 ans, je voulais la changer. J'ai regardé pour acheter une voiture électrique.
Ouais.
Alors en gros, ça coûte 15 000 balles de plus qu'une voiture thermique. L'État nous donne 6 000, donc il reste 9 000 à mettre en plus qu'on espère récupérer sur la consommation.
Oui.
Alors au niveau de la consommation, une voiture essence va consommer en gros 5 litres au 100, donc ça fait 7 euros, et une voiture au pétrole va consommer 20 kWh, ce qui fait en gros 4 euros. Donc on récupère 3 euros du 100.
Oui.
Donc pour récupérer 9 000 euros, il faut faire 300 000 km.
Oh là là là.
Donc ça fait à peu près 30 ans.
Et voilà. Attendez, Denis. Vous avez faussé le calcul un tout petit peu. C'est que si vous rechargez chez vous, ça vous coûte ça. Si vous rechargez sur une station d'autoroute,
c'est, pire, oui.
C'est 40 centimes la minute.
Voilà.
Vous en avez pour une heure et demie à charger la bagnole.
Voilà.
Ça vous coûte trois fois le prix d'une motorisation diesel.
Voilà, bam.
Alors, après, je réfléchissais. Il faut la recharger chez soi. Donc, il faut un garage. Pour avoir un garage, il faut une maison. Donc, c'est la moitié des Français.
Oui.
Après, il faut des Français qui ont un peu de sous. Donc, on divise par deux. Donc, on arrive à 20% des Français. Donc ils vont avoir une voiture qui va coucher au garage, une voiture qui va coucher dehors. Donc ils vont pouvoir recharger chez eux que 10% des voitures.
Bam. Ok, joli calcul.
Après, je pensais au niveau du gouvernement, ben ça vous l'avez dit tout à l'heure, la taxe pétrole rapporte 42 milliards par an, et vous avez oublié de dire que s'ils nous donnent 6 000 euros par voiture et par an, on vend 2 millions de voitures neuves, ça fait 12 milliards supplémentaires. Donc, il y a 54 milliards à trouver. Après, l'électricité, il faut bien la produire. Donc, une voiture qui va faire 10 000 par an à 20 kWh au 100, donc j'avais calculé 20 kWh...
Non, mais vous ne les ferez pas. Parce qu'avec une autonomie misérable comme ça, de
toute façon, vous roulez plus. Attendez, ne parlez pas tous en même temps. Parlez pas tous en même temps, c'est compliqué.
Alors, finissez mon calcul, on arrive...
Rapidement, s'il vous plaît bien.
Après, juste une dernière phrase. À 80 TWh de production d'électricité, donc ça fait 8 réacteurs nucléaires. Flamanville, ça fait 10 ans qu'il est commencé. Et il marche toujours pas, donc je me dis qu'on doit aller sous au croque-mort avant d'acheter une voiture.
Conclusion de voilà, Denis sur Sud Radio. Conclusion. Non, mais en tout cas, Fabrice et Pierre, les calculs de Denis sont d'une justesse imparable, quoi.
Ouais, c'est ce qu'on disait. Ça a été calculé par un rapport parlementaire. Ça coûtera 500 milliards d'euros à la France. Et effectivement, il faut pas rêver. Moi, je vois les gens qui ont des véhicules électriques actuellement. Effectivement, on peut faire des économies sur l'électricité. Par contre, faut pas rêver. Tout ce que l'on perd sur les taxes sur l'essence et le diesel, il faudra bien le récupérer quelque part, et on va le récupérer certainement d'une façon ou d'une autre. Alors, Pierre commençait à le dire sur le compteur Linky, mais il y a certains pays comme l'Australie, par exemple, qui commencent à partir du mois prochain à taxer au kilomètre parcouru une taxe supplémentaire sur le véhicule électrique. Donc,
non, puis y a
de
autre
toute
chose.
Façon, il faudra trouver une solution.
Et il y a autre chose, Pierre, par rapport à ce que dit notre ami Denis, là, qui est intervenu de Saint-Mémy dans la Marne, où on écoute Sud Radio aussi sur les applications ou sur Internet actuellement, ou sur le DAB+, c'est qu'une partie de la population, s'il n'y a plus de moteur thermique, il va se retrouver à pied, Pierre.
En fait, c'est très simple. La voiture électrique, pour l'instant, c'est quoi? On va être honnête. La voiture électrique, c'est le deuxième ou troisième véhicule d'un foyer qui n'est pas trop dans le besoin. C'est une voiture qui coûte beaucoup plus cher, qui ne rend pas les services du thermique. C'est une voiture qui fait que de l'urbain, parce que dès que vous faites de l'autoroute, ou alors faut passer chez Tesla. Mais là, faut quand même avoir un petit peu d'argent.
Ouais,
bref,
après...
la voiture électrique, c'est une voiture de gens qui sont pas dans le besoin.
Pierrot, voilà. Ok, il y a la voiture électrique, mais si, fin du moteur thermique, ça veut dire fin du moteur hybride aussi, parce qu'il y a des moteurs thermiques dans les hybrides. Enfin, on ne va pas pouvoir tous rouler à l'électrique, je ne comprends pas.
Laurence, est-ce que tu te mets à la place de celui qui vient de s'acheter une voiture hybride, là, hier, avant-hier,
et qui nous écoute
en ce moment il a envie de s'arracher les cheveux.
C'est une réalité, Fabrice Godefroy.
Alors, c'est sûr que dans l'amendement pour la 2040 en France, c'était marqué, hybride rechargeable et hybride qui était concerné par l'extinction de ces véhicules au niveau des ventes, c'est pas du parc roulant. Donc ça, c'était marqué. D'ailleurs, il y avait même marqué une phrase en disant c'est vraiment ambitieux d'ailleurs de le faire. C'est marqué noir sur blanc. Vous pouvez le retrouver, cet amendement.
Et quelles conséquences sur les ventes d'occasion? Il nous reste 30 secondes.
Et alors, Pascal Canfin, lui aussi, l'a précisé. Pascal Canfin, c'est le député européen qui est chargé de cette mission au niveau européen. Et lui, il a dit il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a la norme Euro 7 qui va être renforcée en 2025. Après, en 2030, ils veulent baisser de 60% les CO2. Et en 2035, 200%, donc 100%, c'est évidemment 100% électrique. Donc c'est là où on veut nous emmener. Après, le débat, on en reparlera, de savoir si c'était une bonne solution, si c'était écologique, si c'est une bonne solution pour les emplois au niveau de la France.
Rapidement, Pierre.
On en reparlera.
Juste un point, Pascal Canfin, faut connaître quand même le curriculum vitae des gens qui pondent des âneries comme ça. C'est l'ancien directeur général du WWF, c'est-à-dire qu'on est affaire à une sphère écologiste aujourd'hui qui est aux manettes. Donc fondamentalement, on bascule dans des mesures extrémistes.
J'aimerais qu'on refasse un autre sujet sur les conséquences sur les voitures d'occasion Voilà, mi-juillet, si effectivement ça passe, quelles conséquences sur la revente des voitures d'occasion? Est-ce que si vous achetez aujourd'hui une voiture thermique et ou une voiture hybride? Alors évidemment, 2035, ça paraît loin, c'est dans 14 ans. Mais quid dans 14 ans? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'il y a sur ce parc qui est vendu actuellement? On nous force à acheter du hybride. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces véhicules? Bonjour l'écologie. On en parle de tout ça, évidemment, prochainement. Merci. Fabrice, vous reviendrez?
Avec plaisir.
Ça a été très court, ça a été trop court. Mais bon, il y avait aussi le Tour de France, donc...
ça roule.
Pierre, bon
ça
week-end.
Roule le Tour de France.
Ah bah, ça roule bien, mais c'est parti de Brest, en Bretagne. Allez, bon Tour de France à tous et bon week-end avec Sud Radio.